שיר זה מיישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude de Parashat Bo. On va revenir un instant sur l'apaisement, l'alourdissement du cœur de Pharaon. Voyomer Hashem el Moshe Bo el Paro ki ani ichbadti et libo ve et lev avadav. J'ai appesanti son cœur. Le mot ichbadti, c'est-à-dire son cœur est devenu, c'est comme si que Akadosh Baruch Hu s'est appuyé, a appesanti son cœur. Il y a un lien entre le mot ichbadti et le mot kaved. Comme si que le foie, kaved, le foie, que le cœur a pris la place du foie. Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises que l'essentiel de l'homme, c'est son ruach. L'homme, il y a 5 niveaux spirituels dans l'homme. Nefesh, ruach, unshama, haya, veyahida. Le nefesh, c'est l'âme primaire, se situe au niveau du foie. Comme il est dit dans le pasouk, il faut pas manger du sang. L'otochlo est adam, qui adam ou un nefesh. Le dame, c'est le nefesh. Et le nefesh et le foie concentrent tout la qualité du sang. Le sang se concentre. Dans la cacheroute, il est dit qu'on ne peut pas saler le foie, il faut le griller parce que kulodam, il n'est constitué que de sang. Donc le nefesh, il est au niveau du foie. Donc en vérité, il est au niveau bas dans le corps. Et ça fait référence au corps, le corps de l'homme. Le nefesh est assimilé au corps. Et le corps contient toutes les passions, les instincts, les défauts, les mauvaises attitudes de la personnalité. Au-delà, au-dessus de cela, il y a le ruach. Le ruach, c'est le souffle, comme il est dit, va yipach be'apav nishmat haim, ve'ava adam le ruach, ve'ava adam le nefesh haya. Akadosh Baruch Hu a insufflé l'âme de vie à l'homme, et l'homme fut vivant. Et le Targum traduit, le ruach me'malela, le ruach qui parle, le souffle qui parle, l'esprit qui parle. Donc le ruach, il est au-dessus. Et là, c'est au niveau du cœur, au niveau des émotions. L'homme exprime sa relation, son existence par les émotions, alors que le niveau du nefesh, il est au niveau de l'instinct, de la passion, du désir individuel, l'égoïsme, la satisfaction physique. Au-dessus de là, au-delà du cœur, donc le ruach se situe au niveau du cœur. Au-delà, il y a la neshama qui est au niveau du cerveau. La neshama n'est pas entièrement pénétrée dans le cerveau et elle se fige comme une fiche qui rentre. Une certaine partie de la neshama rentre dans le cerveau. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser, nul homme ne peut utiliser 100% de son cerveau. Et la majeure partie de l'aneshama enveloppe le cerveau. Au-delà, il y a haya yahida. Haya, c'est une énergie enveloppante qui enveloppe la tête. Et la yahida, on enveloppe l'ensemble du corps. Donc il y a 5 niveaux spirituels et qui permettent à l'homme de, à partir de l'aneshama, l'aneshama, elle le surveille, elle enveloppe pour lui envoyer des énergies de sorte qu'elle arrive à le protéger, à le surveiller pour qu'il s'élève spirituellement, qu'il ne soit pas attiré vers le bas. Que le ruach ne soit pas influencé et qu'il ne descende pas au niveau du foie, au niveau du nefesh. Alors c'est ça ce qui est marqué ici. Ki anich badti et libo. Son cœur qui est, c'est par le cœur, donc le ruach, C'était cette énergie spirituelle supérieure qui se situe au niveau du cœur que l'homme se définit, qui se place au-dessus de l'animal. L'animal aussi a un nefesh. On appelle ça un nefesh abahamit. Mais l'homme, il est au-dessus. Et le travail de l'homme, c'est justement que le ruach, il arrive à influer sur le nefesh de sorte que le nefesh se raffine et qu'il s'élève, qu'il se lie au ruach. C'est en vérité la liaison qu'il y a. Le nefesh, il est au niveau du hé, dernier hé du Shema Vaya, et le ruach au niveau du vav. Donc le hé doit s'élever et s'identifier au vav et se lier à lui. Et ici, c'est exactement l'inverse qu'il est dit. Qui anirbadti et libo. Donc c'est comme si que Akadosh Baruch Hu avait alourdi le cœur de telle manière qu'il se soit assemblé, emboîté, identifié au foie. Et pour ça qu'il est marqué à plusieurs reprises Kaved lev paro. Le cœur de Pharaon s'est alourdi, quand quelque chose qui est lourd, alors il descend, c'est l'attraction, et il va se figer dans le foie. C'est-à-dire que le Pharaon a perdu sa dimension de Adam, de homme. Et quelle est cette dimension de Adam? La dimension de Adam, c'est celui qui, Adam signifie ressembler. C'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Donc, il tend toujours vers le haut. Pourquoi l'homme? Alors, les commentateurs s'interrogent. Pourquoi l'homme marche sur deux pieds et en stature, il se dresse sur ses pieds et il est vers le haut? C'est parce que c'est son âme qui le tire vers le haut. Donc, le ruach, il tire le nefesh, il tire le corps vers le haut. Et la neshama l'aide à aller vers le haut, à monter. Alors que la bête qui n'a pas de ruach, elle est dirigée vers le lieu d'où elle a été créée. La bête a été créée de la terre. Alors que l'homme, certes, son corps est façonné avec la terre, mais son âme le tire vers le haut. Donc il est à l'identité. Il ressemble, la structure de l'homme ressemble à la structure des mondes supérieurs. Comme il est dit, Adam signifie ressembler. Comme il est dit, Ubiya danevim adamé. Donc c'est l'image, la ressemblance avec Dieu. De par le fait, quelle ressemblance il y a avec Dieu, du fait de son intelligence. La faculté de raisonner, de comprendre les choses, de les approfondir et d'en tirer la leçon. Et ici, c'est l'inverse qui se passe. Cet homme-là, Pharaon, de par son orgueil, il refuse de voir la vérité et son cœur descend au niveau du foie. Et c'est là toute la gravité de sa situation. Donc, il ne peut pas s'en sortir. Il est prisonnier de ses passions. Il est prisonnier de ses instincts. Il est prisonnier de son orgueil. Le Midrash Shimon, Yakut Shimoni, il ramène un machal. Il dira, à ce sujet, le Midrash Yakut Shimoni ramène un machal. Machal et ma'adavar domé. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le cœur, à quoi ressemble le cœur de Pharaon. Alors le Midrash raconte, et la chose suivante. Alors, il y avait un lion voyageait en bateau, accompagné de sa cour. Donc, il y avait un renard, un âne, etc. Donc, une cour, les animaux qui accompagnent. Le roi des animaux ne se promène pas seul, il voyage avec sa cour. Alors, cependant, la fonction de l'âne, c'est de percevoir les taxes et les impôts. Donc, il est préposé, quand on monte sur le bateau et qu'on doit prendre, on doit payer une taxe. C'est ainsi que le lion lui a attribué cette fonction. Donc, et là, il arrive, et il va voir le capitaine du bateau, et il lui dit, il faut payer pour les passagers, il faut payer le droit de prendre la mer. Alors, et pour qui il faut payer? Il faut payer pour le roi, pour tous les passagers, le roi et sa cour, et tous ceux qui l'accompagnent. Alors, le renard lui dit, mais tu es insensé, c'est faux. Voilà que tu sais pas que nous accompagnons tous ceux qui, ce bateau-là, a été affrété par le roi. Nous sommes tous ici pour accompagner le roi, le lion. Et comment veux-tu que, voilà que quand on paye les taxes, ça va pour le roi. Ça va dans le budget du roi. Alors pourquoi tu réclames? Il dit non, il n'y a pas d'exception. Vous devez tous payer. Le roi lui aussi doit payer la taxe. Donc il est insensé et il ne comprend pas, il ne déroge pas de sa fonction. Alors il encaisse les taxes. Il exige et il y a quelqu'un qui paye les taxes pour le roi et pour sa cour. Mais le renard va rapporter ça au roi. Et le roi rentre en colère, le lion, il est en colère. Il dit, comment cet insolent, cet arrogant a pu exiger que moi je paye, que ma cour paye la taxe. Voilà que la taxe, c'est moi, je suis le roi. Alors, qu'est-il dit? Il est dit que le roi exigea qu'on présente l'âne devant lui. Donc l'âne s'est présenté devant le roi, devant le lion, et le lion l'a dévoré. Il l'a mis à mort. Et après, il a demandé qu'on dépèce et qu'on présente chacun de ses organes, de ses membres devant lui. Alors qui est-ce qui se charge de dépecer l'âne? C'est le renard. Alors le renard, qu'est-ce qu'il fait? Le renard, en dépeçant l'âne, il ne peut résister et il dévore le cœur de l'âne. Mais quand il présente les organes et les membres devant le lion, le lion s'étonne. Il dit, mais présentez-moi le cœur. Je veux le dévorer. Je veux manger le cœur de cet âne-là. Et là, le renard, il avait déjà mangé. Alors, qu'est-ce qu'il dit le renard au lion? Il dit, mais il n'avait pas de cœur. Il n'avait pas de cœur, cet âne-là. Parce que s'il avait eu un cœur, il n'aurait pas exigé que le roi paye la taxe de navigation. Ça, c'est le machal que donne le Yakut Shimoni. Alors, de quoi il s'agit? Alors, l'âne en question, c'est Pharaon. Pharaon n'a pas de cœur. Parce que s'il avait du cœur, il n'aurait pas exigé d'Akadosh Baruch que son peuple paye la taxe. De quelle taxe il s'agit? Comment comprendre la parabole? Quel est l'enseignement de la parabole? Certes, l'âne peut correspondre à Pharaon. Le lion peut être à la place du roi, Kadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce que c'est identique? Alors l'idée est la suivante. Il y a des règles dans ce monde. Le roi lui-même, le lion, c'est lui qui a établi les règles que celui qui prend la mer alors doit payer une taxe pour voyager. Donc c'est Kadosh Baruch Hu qui a décrété qui a décrété que Am Israël y soit sous l'emprise de Pharaon. Cependant, quand Kadosh Baruch Hu exige de Pharaon qu'il libère le peuple, le Pharaon est toujours dans sa fonction. Lui, pour lui, le temps de délivrance n'est pas arrivé, donc il n'écoute pas ce que le roi lui dit. Et on le compare à un âne. L'âne fait référence à la matérialité. Là, le hamor, il fait référence au homer, à la matière brute. Alors, il y a une différence. En général, Chachamim nous disent que le nefesh, le corps de l'homme, il est la matière, il est le homer. C'est de la matière vulgaire, brute, à l'état brut. Et c'est le ruach, quand le ruach rentre, pénètre le corps, que le corps va faire référence à l'âme qu'il a, parce qu'il peut bouger, il peut agir. Et l'homme, de par sa faculté essentielle, c'est la réflexion et l'intelligence. Alors prenons l'image d'une matière. On prend un morceau de fer, un morceau de métal. Le métal, c'est un métal brut, pas travaillé. Ça fait référence au homer, à la matière vulgaire, brute, à l'état brut. Quand on transforme la matière et on en fait un objet, alors on fait avec ça une fourchette, une cuillère, un outil, un tournevis, n'importe quel objet, ça reste de la matière, ça reste un morceau de métal. Mais ce métal-là, il s'est raffiné. On voit à travers l'objet que cette matière-là, on lui a imprimé une intelligence. On l'a transformé. Et c'est ça, le Homer Vetsura, on lui a donné une forme. La forme, c'est marque, l'objet au départ n'était que matière vulgaire. Quand on le transforme et on lui donne une forme, une Tsura, la forme d'un objet, cet objet-là, parce qu'il a une utilisation, il indique que on l'a forgé par une intelligence. Donc c'est ainsi, cette madriga-là, c'est la madriga du Ruach. C'est pour ça que l'homme, il peut parler, exprimer son intelligence. Et là, il est resté au niveau de la matière. Bien qu'il agisse, il n'a pas la faculté de comprendre, d'aller au-delà de son domaine. Alors c'est ça ce que l'âne dit ici. L'âne dit, moi on m'a placé ici pour exiger le paiement des taxes, je ne sais pas, plus que ça je ne sais pas. Donc il n'a pas d'autonomie, il n'a pas d'intelligence propre pour comprendre que parfois les règles, la quadrature de la règle et de la loi doit être parfois arrondie. Il n'a pas d'autonomie, d'indépendance intellectuelle pour comprendre. Et c'est la position dans laquelle est postée, c'est ça la posture de Pharaon. Et alors pour ça qu'il lui dit, il n'a pas de cœur. Et le cœur est au niveau, il y a du foie, il a un foie. Il a un foie. Et le cœur, j'ai alourdi, je me suis appesanti sur son cœur à tel point que le cœur est descendu au niveau du foie. Et toute la personnalité de Pharaon, elle est figée. Pour ça que Chachamim dit, quand ils opposent, ils font une comparaison entre Moshe et Pharaon. Alors on dit que Pharaon, il est sur son trône, il est Amal. La mesure de Pharaon, c'est une coudée. Une coudée bien dense dans la matérialité. Alors que Moshe, il est immense, c'est un géant immense qui, dans la tête, gras, atteint les cieux. Pourquoi? Parce que Moshe, il a, comme nous l'avons dit, la neshama qui le tire vers le haut. Il a sa force spirituelle. Le nefesh ha-sikhlit, la neshama de l'intellect, qui lui permet d'atteindre les cieux et de voir, certes, il a les pieds posés sur terre, mais il atteint les degrés les plus élevés, les plus sublimes. Et c'est ça que il est dit ici, que Pharaon, il a eu le cœur endurci, alourdi, à tel point que toute sa qualité de homme lui a été retirée. Et il n'est plus que du kaved. Et donc il faut arriver, parvenir à, pour s'en sortir, Pour s'en sortir, chacun d'entre nous sait que pour se sortir d'une position, d'une posture, d'une situation, on doit prendre de la hauteur pour observer notre situation de manière juste, sans négiaut, sans voir les choses avec intérêt, avec objectivité. Donc, et ça, Pharaon ne peut pas, puisque son cœur est au niveau du foie. Donc, au contraire, c'est le Nefesh qui a saisi le Rouach et qui l'a mis à son niveau, donc il est perdu pratiquement. Et il a pas de Neshama qui lui permette. Au contraire, bien que il y a ici des indications, Moshe vient et répète sans cesse à Pharaon que Akadosh Baruch Hu lui apparaît, il est sourd, il n'entend pas. Il ne peut pas entendre la parole de Moshe, et les makotes sont que dans cette situation, la parole ne fait pas effet, c'est les coups qui vont lui permettre de prendre conscience de ça. Les coups, parce que c'est dans son corps que il est au niveau de la matière, il faut la briser pour qu'elle donne ses énergies, pour arriver, il faut la fondre, il faut la travailler, il faut taper dessus pour transformer la matière brute en objet intelligent. Donc c'est cette formation-là, c'est cette transformation-là que les makotes vont servir. C'est ce processus-là que les makotes vont produire à Pharaon jusqu'au moment où il va prendre véritablement conscience le jour de sa mort, quand il va être noyé dans la mer. Baruch Adonai Le'olam.